En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour. Pour le 400e anniversaire de la première utilisation de la lunette astronomique par Galilée, le Bureau des longitudes a invité des scientifiques renommés à parler de la quête galiléenne du système solaire à la Voie lactée le 17 juin 2009 à l'Institut de France. Galilée, qui rappelons-le, est un physicien et astronome du XVIIe siècle, est mondialement connu pour avoir conçu sa première lunette astronomique en 1609. Lunettes qui permettront par la suite de mieux comprendre le fonctionnement de notre galaxie. Ainsi, 5 scientifiques de renom se sont successivement relayés pour présenter l'évolution des différentes découvertes de Galilée, de leur conception à nos jours. Canal Académie vous retransmet la conférence en 2 parties. Vous retrouverez dans une autre émission les interventions de Yann Clinet et Jean-Eudes Arlot sur le Very Large Telescope et l'Extremely Large Telescope ainsi que l'observation des satellites galiléens. Mais commençons tout d'abord par les 3 dernières interventions évoquant les avancées sur 3 découvertes de Galilée. Galilée fut le premier à observer la planète Vénus avec sa lunette astronomique. Il constata qu'elle imitait les phases de la Lune et qu'elle avait un éclairement variable en fonction de la phase, ce qui vint remettre en question le système géocentrique de Ptolémée et de Copernic. Cette découverte apportait donc la preuve que Vénus était en rotation autour du Soleil. La Terre et Vénus sont souvent décrites comme étant jumelles, avec l'existence d'une atmosphère et la présence de dioxyde de carbone sur les 2 planètes. Pourtant, leur rotation est différente, c'est ce que vous expliqueront Thomas Widman et Véronique Dehan dans leur exposé. Jean-Marie Malherbe vous parlera dans un deuxième exposé du Soleil depuis son observation dans les lunettes de Galilée jusqu'au lancement du microsatellite Picard, qui devrait avoir lieu en novembre 2009 pour mesurer la luminosité et le rayon du Soleil. Il retracera les grands événements comme les premières observations des taches du Soleil, les mesures de son diamètre, la découverte du cycle des taches et de sa couronne, les premières photographies et l'observation du champ magnétique. Il vous expliquera également comment le Soleil peut avoir une influence sur le climat. La conférence se terminera par l'intervention de Catherine Turon sur la Voie lactée de Galilée à la mission Gaïa de 2011, qui aura pour objectif d'observer plus d'un milliard d'objets afin d'expliquer l'évolution de notre galaxie. Elle vous racontera notamment comment nous avons exploré la Voie lactée au fil des siècles. Sans plus attendre, je vous laisse écouter les 3 interventions de ces scientifiques renommés sur la quête galiléenne du système solaire à la Voie lactée.
Je vais parler de la rotation, qui est dans un sens qui ne nous est pas familier, je dirais, puisque la Terre tourne dans le sens opposé à la rotation de Vénus. Je parlerai aussi de cette rotation dans le cadre des missions récentes. Donc là, on va faire un bond de 20 ans pour arriver à la mission Vénus Express. Et ensuite, on va parler de la rotation par l'observation de radar. Donc première partie, la rotation rétrograde. Vénus et la Terre, comme Thomas vous l'a montré dans le tableau qui dressait la comparaison des planètes telluriques, elles sont très semblables. Donc ce sont des sœurs jumelles, mais pas pour la rotation. En effet, la Terre tourne dans un sens et Vénus tourne dans l'autre. Quelques chiffres d'abord, la rotation de Vénus, concernant la rotation de Vénus, une année de Vénus de l'ordre de 225 jours, un jour sidéral de l'ordre de 243 jours, un jour solaire de l'ordre de 217 jours, et une inclinaison particulière, une inclinaison à peu près de 180 degrés. Par conséquent, on peut dire que l'axe de rotation de Vénus est, avec la tête en bas, si on veut, par rapport à celui de la Terre. En fait, la rotation de Vénus est dans le sens rétrograde, alors que celle de la Terre est dans le sens prograde. Et on avance bien sûr des explications pour cette rotation. La première, c'est une collision originelle. On parle aussi d'un effet de freinage de l'atmosphère. On parle d'un basculement de l'axe de rotation. Et nous allons regarder un petit peu tout ça. Alors avant d'y arriver, parlons de l'atmosphère de Vénus. Cette atmosphère est extrêmement dense, on a à peu près, j'allais dire 92, je viens de Belgique, 92 bars, donc c'est énorme. Et si vous mettez une canette de soda à la surface de Vénus, elle serait complètement écrasée. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement dense, un mouvement dans cette atmosphère, une circulation générale dans cette atmosphère avec des vents et des nuages. Et on pense que cette atmosphère pourrait être en partie à l'origine de la rotation rétrograde de Vénus. La température, Thomas vous en a parlé, on a des températures extrêmement chaudes avec un effet de serre extrêmement important. Pourquoi cette rotation rétrograde ? Alors on avance plusieurs hypothèses. La première, c'est que les effets de marée, la friction due aux effets de marée a tendance à freiner la rotation de la Terre et de même la rotation de Vénus, des corps en rotation. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, le bourrelet de marée, donc la déformation de marée, est entraînée par la rotation de la planète. Et comme la planète n'est pas parfaitement élastique, ce bourrelet n'est plus en phase avec le corps attracteur, le Soleil. Et de ce fait, on a un effet de force additionnel qui freine la rotation de Vénus sur elle-même, ou qui freine la rotation de la planète sur elle-même. Un autre phénomène qui a été avancé, c'est une friction à l'interface entre le noyau et le manteau. Les planètes telluriques sont composées d'un centre qui est essentiellement un alliage de fer et un manteau silicaté. Ce noyau est liquide, en tout cas pour la Terre et pour Vénus. Et à l'interface de ce noyau et de ce manteau, on a des frictions, des forces de friction. Ces forces de friction peuvent faire varier la rotation du manteau, donc faire varier la rotation de Vénus. Alors, on a également des phénomènes liés à la marée de l'atmosphère, liés au chauffage solaire. Donc le Soleil chauffe l'atmosphère, des mouvements, des déformations de cette atmosphère, des mouvements de masse dans cette atmosphère en sont la conséquence. Et ces masses dans l'atmosphère peuvent également exercer un moment de force sur la planète elle-même. En fait, évidemment, c'est l'ensemble de ces trois phénomènes qui vont entrer en jeu quand on veut faire une démonstration fine de l'état de rotation de Vénus à l'heure actuelle. Donc c'est tous ces effets combinés qui conduisent à quatre états stables, comme cela a été montré par Correa et Lascar dans un papier en 2001. Ce sont tous ces effets combinés qui mènent à quatre états stables, dont deux sont dans le sens prograde et deux dans le sens rétrograde. Et donc finalement, pour expliquer le phénomène de rotation rétrograde de Vénus, on peut partir de deux états initiaux de Vénus, l'un où la rotation initiale est prograde, et puis on a un ralentissement de cette rotation par les effets dissipatifs dont je viens de vous parler. Et pendant ce temps, l'obliquité vient vers un état d'équilibre vers zéro. Puis cette rotation est tellement freinée qu'elle s'arrête, et Vénus se met à tourner en sens inverse. C'est une explication. La deuxième explication, qui est la plus favorisée à l'heure actuelle, est que Vénus est initialement en rotation prograde, bien sûr, et puis l'obliquité est proche de zéro, mais à cause des effets des perturbations planétaires, donc des autres planètes, cette obliquité se décroche par rapport à cet état d'équilibre et vient se mettre dans un autre état d'équilibre à environ 180 degrés. Donc on a vraiment un basculement de l'axe de rotation de Vénus, donc l'axe de rotation à la tête en bas si on veut. Rotation dans le cadre des missions récentes, passées et présentes. On a eu Magellan dans les années 90. 4 ans de mission qui nous ont permis d'avoir des résultats fantastiques, y compris à avoir des évaluations de la rotation de Vénus. Et depuis 2006, on a eu Vénus Express, une mission de l'Agence spatiale européenne qui est toujours en cours et qui donne des résultats assez fabuleux. Donc voilà Vénus Express, donc c'est une mission qui est en fait dans la lignée de Mars Express, donc c'est la visite des planètes telluriques. À bord, on a quelques spectromètres, on a évidemment une caméra, etc. Et on a un instrument de radioscience qui s'appelle VERA, on le voit là sur la dia. C'est un instrument qui va permettre de sonder l'atmosphère, mais pas seulement de sonder l'atmosphère, aussi d'obtenir le champ gravimétrique de la planète, comme Magellan l'a obtenu 10 ans précédemment. Donc les objectifs de cette mission récente, on les voit ici. On va essentiellement s'intéresser à l'atmosphère de Vénus, donc essayer de comprendre l'échappement de l'atmosphère, les interactions entre la haute atmosphère et le vent solaire, les interactions entre la haute et la basse atmosphère, les nuages, Et puis on va également s'intéresser au remodelage de la surface depuis les 500 millions d'années, cette activité volcanique et sismique à l'heure actuelle, et s'intéresser à la structure interne. Comment peut-on s'intéresser à la structure interne ? Eh bien, vous avez probablement tous déjà fait cette expérience. Vous prenez un œuf cuit et un œuf non cuit et vous les faites tourner. Ils tournent de manière différente. Donc en observant la rotation de Vénus, on peut avoir de l'information sur l'intérieur de Vénus. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Maintenant, on n'a que 2 à 3 ans de mission, et donc, dans un avenir proche, on pourra répondre à des questions beaucoup plus fines sur la structure interne de Vénus. Ça, c'est pour la mission Vénus Express. On passe à maintenant l'observation qui nous a permis d'obtenir les valeurs précises de la rotation de Vénus. C'est les observations par radar. Alors, ces observations sont effectuées au départ d'énormes antennes, 70 mètres de diamètre. On utilise 2 de ces antennes essentiellement et on observe Vénus depuis la Terre. Donc, ce sont des observations sol. Hein. Donc, c'est très, très intéressant de toujours de s'occuper des observations au sol en parallèle avec les missions spatiales. Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie un signal radio qui vient éliminer la surface de Vénus, donc depuis ses antennes. Et on l'envoie pendant environ 10 minutes. Alors, ce signal radio, après ça, il est réémis vers la Terre et on enregistre les échos par le télescope à Goldstone et à Green Bank, toutes les 10 minutes. Et après, on effectue une corrélation entre les fluctuations des amplitudes. En fait, voilà ce qui se passe. Donc, si vous envoyez une onde radio, elle est réfléchie à la surface. Et évidemment, si vous le faites pendant 10 minutes, à cause de la rotation de Vénus et à cause de la rotation de la Terre, le rayon va arriver d'abord à Goldstone et puis à l'autre antenne, donc à une des deux antennes et puis à l'autre antenne. Et en mesurant le délai de temps entre les deux antennes, on arrive à reproduire la rotation de Vénus. On fait ça sur Mercure à l'heure actuelle, donc on essaye de caractériser les rotations des différentes planètes telluriques en utilisant ces énormes antennes donc, qui sont aux États-Unis. Et j'en arrive aux conclusions, où on a essayé de refaire une conclusion qui reprend l'ensemble de cet exposé, avec en fait l'objectif de vous laisser comme phrase finale qu'en fait, il y a déjà plein de choses qui ont été faites, mais l'exploration n'est toujours pas finie. On a vu les phases de Vénus, donc l'observation comme preuve des théories scientifiques, via la partie de Thomas. On a vu la superrotation de l'atmosphère, qui est toujours mal comprise, on essaye encore de l'étudier. D'ailleurs, Vénus Express en est la preuve, c'est une mission qui s'intéresse à l'atmosphère. On a vu que la rotation rétrograde a pu être observée par radar. On va l'observer par radioscience dans le futur. Et donc, il reste encore plein de choses à faire. Merci de votre attention.
Donc nous allons maintenant parler du Soleil, une rétrospective qui va porter sur une période de 4 siècles, donc de Galilée en 1609 jusqu'en 2009, où nous mettrons en service le satellite d'observation Picard, qui conclura cet exposé, ce court exposé. Alors nous commençons tout d'abord par quelque chose dont vous avez beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant, bien entendu, la lunette de Galilée, à partir de 1609, dont la première utilisation a porté forcément sur l'observation de la Lune et l'observation du Soleil, puisque ces deux objets sont les plus visibles, les plus faciles à observer dans le système solaire. À partir de 1610, donc au tout début de la lunette de Galilée, eh bien, les premières observations des taches à la surface du Soleil ont commencé à se faire. Et elles se sont faites à peu près simultanément dans plusieurs pays, notamment Thomas Harriot en Angleterre est probablement le premier qui est reporté dans la littérature l'observation de taches du Soleil en 1610. Galileo Galilei, bien entendu, l'allemand Christoph Scheiner, l'allemand Fabricius. Donc ces 4 personnes ont inauguré l'ère de l'observation des taches du Soleil. Très rapidement, l'observation de la surface du Soleil a tiré un très grand profit de l'organisation de l'astronomie en France, de la structuration de l'astronomie en France, à partir de 1667, sous l'impulsion de Colbert, à l'époque de Louis XIV, eh bien, c'est à l'Observatoire de Paris qu'ont commencé de nombreuses tâches, de nombreuses observations de tâches extrêmement précises et dont on parle encore aujourd'hui. À l'Observatoire de Paris, eh bien, on a commencé par y installer ce qu'on appelait des lunettes aériennes à l'époque. Ce n'était pas encore forcément des lunettes compactes comme celles de Galilée. Les lunettes aériennes de Huygens étaient constituées d'une lentille qui était accrochée soit sur le bâtiment Perrault, soit au sommet de tours. Ici, c'est une tour qu'on appelle la tour de Marly et qui était en fait une tour qui avait été fabriquée pour le système d'adduction d'eau du château de Versailles. Eh bien, on observait donc les étoiles, on observait le soleil avec ces lunettes aériennes qui étaient accrochées sur le certain de Paris. Le XVIIe siècle, c'est le siècle en fait de la mesure. C'est aussi le siècle de l'astrométrie, siècle où on a commencé à introduire des techniques de mesure de haute précision, avec notamment l'impulsion de Jean Picard, qui était membre de l'Académie des sciences, Adrien Ozou, Christian Huygens, Philippe de Lahire, qui fut l'élève de Jean Picard. Par exemple, vous avez ici un schéma de l'oculaire micrométrique d'Adrien Ozou, qui a été extrêmement utile, vous voyez cet oculaire qui est ici, qui a été extrêmement utile pour effectuer des observations de position de grande précision. Au milieu, les horloges de Huygens. Les horloges de Huygens n'avaient pas évidemment encore une très grande précision, mais elles ont quand même permis d'apporter une précision d'une seconde, notamment à la mesure des passages que l'on effectuait alors avec ce qu'on appelle des quarts de cercle méridien et qui ont permis notamment la chronodatation des passages au méridien et notamment des passages du soleil au méridien qui ont permis d'effectuer les premières mesures du diamètre du soleil. Donc, XVIIe siècle, siècle de l'astrométrie, on a commencé à faire des mesures du diamètre du soleil, des mesures de position des tâches précises. Vous avez ici quelques noms, vous ne pouvez certainement pas les lire si vous êtes au fond, mais je vais juste les citer rapidement, comme Gabriel Mouton, Ozou, Picard, Jean Richer, Philippe de Lahire, Louville, Bouguer, Mayer en Allemagne, Lalande, un grand nombre, une majorité en fait de savants français qui se sont illustrés au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle dans les mesures d'astronomie précises de position et les mesures du diamètre du soleil. Un peu après, en 1666, eh bien, nous voyons apparaître la découverte du spectre continu du soleil par Newton, avec un simple prisme qui a permis à Newton de faire apparaître donc l'arc-en-ciel que nous connaissons tous aujourd'hui. Nous faisons maintenant un grand saut dans le temps, plus d'un siècle après, en 1817, eh bien, c'est l'Allemand Joseph von Fraunhofer qui a découvert le spectre de raies d'absorption du soleil. Donc vous voyez ici un spectre qui est un spectre continu qui est entrecoupé d'un très grand nombre de petites barres noires qu'on appelle des raies d'absorption et qui sont en fait la signature d'atomes, par exemple d'hydrogène, de sodium, de magnésium. Ici on a une molécule, la molécule CH, d'atomes de calcium. Il y a des milliers de raies comme cela dans le spectre du soleil. Donc c'est à partir de Fraunhofer qu'on a commencé à investiguer le spectre solaire. En 1838, quelques années après, c'est la première tentative de mesure de ce qu'on appelle, entre guillemets, la constante solaire, parce qu'on sait qu'en fait ce n'est pas une constante, avec un appareil de Claude Pouillet que l'on a appelé le pyr héliomètre. C'était en fait un appareil qui était constitué d'un réservoir d'eau avec un couvercle, un capot peint en noir. Dedans, il y avait un thermomètre qui plongeait et on mesurait l'augmentation de la température de l'eau de façon à pouvoir en déduire une estimation par la suite de la température du soleil, de la température effective du soleil. Un petit peu plus tard, en 1843, eh bien, une grande découverte a été faite. C'est la découverte du cycle des tâches par Heinrich Schwabe, un astronome allemand, qui a montré que quand on regarde le nombre des tâches, en fonction du temps, ici on va de 1700 jusqu'à nos jours, eh bien on s'aperçoit que le nombre de tâches a une évolution qui est cyclique, qui n'est pas totalement régulière, mais enfin dont la période avoisine à peu près une période de 11 ans. En 1852, l'astronome anglais Edward Sabine a découvert une corrélation entre ce cycle des tâches, donc ce cycle de 11 ans que nous voyons ici, et qui est reproduit par la courbe ici en trait plein, cette sorte de sinusoïde, eh bien, on a superposé à cette courbe-là ce qu'on appelle l'activité géomagnétique, c'est-à-dire en fait les fluctuations du champ magnétique de la Terre. Eh bien, donc, Sabine a découvert qu'il y avait une corrélation assez forte et assez évidente entre les fluctuations du champ magnétique terrestre et la variation du nombre de tâches à la surface du Soleil. C'est ce qu'on a commencé à appeler l'activité, les relations entre l'activité du Soleil et l'activité géomagnétique de la Terre. À partir de 1845, on pénètre dans une ère qui est marquée par l'apparition de la photographie. C'est le premier daguerréotype du Soleil, effectué par Hippolyte Fizeau et par Léon Foucault. Et donc, à partir de cette ère, donc le milieu du 19e siècle, on va pouvoir commencer à effectuer des observations qui seront dénuées de toute interprétation liée au dessin, notamment. Un petit peu plus tard, l'Anglais Richard Carrington découvre la rotation différentielle du Soleil. Jusqu'ici, on pensait que le Soleil tournait comme un corps solide, comme le fait la Terre, par exemple. Eh bien, on a découvert que, en fait, l'équateur du Soleil tourne plus vite qu'au pôle. C'est-à-dire que l'équateur tourne sur lui-même environ 26 jours, alors que les pôles tournent en environ un mois. Vous voyez ici une illustration, par exemple, de l'activité du Soleil, de la première éruption du Soleil, qui a également été découverte par Richard Carrington. Le 18 août 1868, donc encore quelques années après, c'est ce qu'on peut appeler le triomphe de la spectroscopie. Jules Janssen, qui est le fondateur de l'observatoire de Meudon, et Norman Lockyer, qui est un astronome anglais connu, démontrent pour la première fois la possibilité d'observer les protubérances en dehors des éclipses. On ne savait observer ces protubérances du Soleil à l'époque qu'au moment des éclipses totales de Soleil. Eh bien, grâce à la spectroscopie, Janssen et Lockyer ont montré la possibilité d'observer ces objets, ces protubérances du Soleil, tout à fait en dehors des éclipses. Et à partir de cette période-là, eh bien, on a donc observé très régulièrement à Meudon les protubérances par les moyens spectroscopiques hors éclipse. C'est également, cette année-là, cette éclipse du 18 août 1868, c'est également une autre grande découverte marquante, c'est la découverte de l'hélium. L'hélium a été découvert dans le spectre du Soleil par donc Janssen et Lockyer. Vous avez ici un spectre pris au cours d'une éclipse. À cet endroit-là du spectre électromagnétique, qui est situé dans le jaune, à 587,5 nanomètres, excusez-moi, eh bien on voit apparaître une raie brillante que l'on n'avait jamais vue ailleurs, que l'on n'avait jamais constatée, et qui est en fait donc une raie qui correspond à l'existence d'hélium dans l'atmosphère du Soleil. Un an plus tard, le 7 août 1869, le savant américain Thomas Young découvre ce qu'on appelle aujourd'hui les raies interdites de la couronne. En particulier, il découvre une raie qu'on appelle la raie verte. Mais il ne sait pas ce que c'est à l'époque. C'est un phénomène qui est tout à fait inconnu. Alors il baptise cette raie le coronium. Le coronium, donc, c'est en fait la raie verte qui apparaît ici à 530 nanomètres et qui est une raie spécifique de la couronne du Soleil. Il faudra 70 ans pour expliquer ce phénomène. On a compris plus tard que c'était une raie qui était émise par un atome de fer 13 fois ionisé, c'est-à-dire un atome qui a perdu 13 électrons en raison de la très forte température de la couronne du Soleil. Vers la fin du 19e siècle, l'Allemand Gustav Spörer et l'Anglais Edward Maunder découvrent quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le minimum de Maunder, c'est-à-dire un minimum d'activité solaire extrêmement marqué qui s'est prolongé entre 1645 et 1705. Vous voyez ici, en fonction du temps, de 1600 jusqu'à nos jours, l'an 2000, une courbe qui retrace l'évolution des tâches à la surface du Soleil. On retrouve en bleu le cycle bien connu de 11 ans. Mais par-dessus ce cycle de 11 ans, eh bien, il y a une certaine modulation avec ce qu'on appelle des cycles forts et des cycles faibles. Et surtout, un très large trou entre 1645 et 1705 où il y a eu extrêmement peu de tâches observées à la surface du Soleil, donc pendant pratiquement 60 ans. Il y a un autre minimum qui s'est produit un petit peu après, qu'on appelle le minimum de Dalton. Eh bien, on retrouve un certain nombre d'observations dans les archives, y compris de l'Observatoire de Paris. À cette époque-là, en 1676, c'est-à-dire en plein minimum de Maunder, Jean-Dominique Cassini, qui était le directeur de l'Observatoire, écrit ce qui est écrit ce petit texte-là que je vais lire parce que vous ne pouvez pas, vous êtes trop loin. C'est la troisième tâche qui a paru en cette année 1676, dans laquelle elles ont été plus fréquentes qu'elles n'avaient été pendant 20 années précédentes. Elle fut aperçue par M. Picard en prenant la hauteur du soleil pour la rectification des horloges le matin du 30e d'octobre. Alors ça voulait dire que observer trois tâches en 1676, c'est un phénomène tout à fait exceptionnel. Ça veut dire qu'on observait extrêmement peu de tâches à l'époque. Et notez que très peu de tâches avaient été observées pendant 20 années précédentes. Ça veut dire qu'effectivement, on était dans un minimum extrêmement particulier. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas encore. Ça a été découvert effectivement qu'à la fin du 19e siècle par Maunder de façon rétrospective. Au début du 20e siècle, Henri Deslandres, qui appartenait au Sartre de Meudon, et George Hell aux États-Unis ont inventé une technique spectroscopique permettant de fabriquer des images du Soleil telles qu'on en fait d'ailleurs encore aujourd'hui quotidiennement à l'Observatoire de Meudon. Cet instrument s'appelle le spectroheliographe. Bon, il a été modernisé, bien sûr, au fil des temps. Et un petit peu plus tard, George Hell, donc encore lui, aux États-Unis, découvre la nature magnétique des tâches du Soleil. En fait, il découvre à l'intérieur des tâches du Soleil, par les moyens de la spectroscopie, ici vous avez une tâche, une fente de spectrographe qui a été placée sur une tâche, et ensuite on décompose la lumière, et bien on s'aperçoit que l'arrêt spectral que l'on observe se trouve au niveau de la tâche qui est représentée par cette traînée noire, se trouve dédoublée en deux composantes, voire ici, c'est un autre endroit de la tâche, trois composantes qui résultent d'un effet qu'on appelle l'effet Zeeman et qui est un effet qui avait été découvert à la fin du 19e siècle par le savant hollandais Peter Zeeman. Quelques dizaines d'années plus tard, c'est Bernard Liot qui invente le coronographe et qui nous permet d'observer la couronne hors éclipse. Bernard Liot est un astronome très célèbre qui fut membre de l'Académie des sciences. Il a inventé un appareil que l'on utilise encore très largement aujourd'hui en astronomie et qui, au moyen d'un disque occulteur, permet en quelque sorte de réaliser une éclipse artificielle permettant d'observer la couronne du Soleil, qui est extrêmement ténue, de façon quasi permanente. En 1932, Karl Jansky découvre pour la première fois le rayonnement radiogalactique et 10 ans après, c'est au tour des sursauts radio de la couronne du Soleil d'être découvert en fait de façon tout à fait fortuite. Ils ont été découverts pendant la Seconde Guerre mondiale par des radars anglais qui ont perçu un signal qu'ils ne savaient pas interpréter. Puis quelques années après, en 1953, nous avons eu donc dans cet essor de la radioastronomie, la fondation de la radioastronomie de Nancy. En collaboration avec l'École normale supérieure, et la photographie vous montre le radioheliographe de Nancy. Et on arrive maintenant à la fin du XXe siècle, qui a vu la mise en route d'un grand télescope qu'on appelle TEMIS à l'Observatoire européen du Nord, sur les îles Canaries, qui est installé sur deux îles, l'île de Tenerife et l'île de La Palma. Donc cet instrument est un instrument français, qui est donc installé au sein d'un grand observatoire international et qui a été donc conçu par l'Institut national des sciences de l'univers de façon à pouvoir y observer de façon extrêmement précise les champs magnétiques solaires et l'évolution des champs magnétiques solaires dans lesquels les champs vectoriels au-dessus d'une tâche solaire sont représentés, les petites flèches indiquant l'orientation des champs magnétiques qui sont perpendiculaires à la ligne de visée. En 2002, les collègues suédois ont mis en service, sur cet observatoire européen du Nord, ont mis en service un instrument solaire de 1 mètre de diamètre, dédiée à la haute résolution angulaire. Ici, vous avez donc le sommet de cette tour solaire qui est équipée d'un montage un petit peu particulier. Vous avez ici une lentille de 1 mètre de diamètre qui est à cet endroit-là. Le faisceau est coudé et renvoie la lumière au pied du télescope. C'est à 2370 mètres d'altitude sur l'observatoire de La Palma. Eh bien, on a découvert avec cet instrument, on a observé pour la première fois les champs magnétiques à très haute résolution spatiale à l'aide d'un système d'optique adaptative comme celui décrit tout à l'heure par Yann dans son exposé. Vous avez ici ce qu'on appelle la granulation du Soleil. Ça représente une seconde de degré, une espèce de tache comme celle-ci. C'est simplement la signature de la convection du Soleil à la surface du Soleil. Et entre ces grains, qui font à peu près une seconde de degré, eh bien, on y voit de temps en temps des points beaucoup plus petits, dont la dimension est certainement inférieure à un dixième de seconde de degré, et qui sont identifiés comme étant la signature de tubes de champs magnétiques extrêmement intenses, dont on voit la signature ici observée grâce à la polarimétrie à l'effet Zeeman. La signature de ce tube de flux, en bleu, correspond à un champ magnétique qui se dirige vers l'observateur et qui représente quelques milliers de Gauss. Nous passons maintenant à l'ère spatiale. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'ère spatiale a permis de commencer à explorer l'atmosphère du Soleil dans le domaine de l'ultraviolet et dans le domaine des rayons X. Par exemple, ici c'est une expérience française, TRC, qui a été lancée par le service d'aéronomie en 1979, qui a permis d'observer le Soleil dans l'arrêt Lyman Alpha en ultraviolet, région où la température est de 20 000 degrés. Puis, vous avez ici SOHO, instrument qui a été mis en service en 1996 et d'ailleurs qui est toujours actif 13 ans après. C'est un record de longévité pour un instrument spatial qui observe la couronne du Soleil dans les raies chaudes de l'atmosphère, c'est-à-dire des raies très ionisées du fer, fer 12, fer 13, fer 14, voire éventuellement hélium 2. Et enfin, entre 1991 et 1999, les collègues japonais ont mis en route un instrument qui s'appelle Solar A et qu'ils ont baptisé Yoko comme un rayon de soleil, qui a observé le cycle du Soleil pour la première fois en rayons X. Vous voyez ici sur cette petite animation des photographies successives qui ont été prises par cet instrument à un an d'intervalle. Donc on passe d'un Soleil qui est extrêmement noir ici à un Soleil qui devient extrêmement brillant et qui correspond au maximum de l'activité du Soleil. L'instrument SOHO, mis en service en 1996 et donc qui est toujours actif, il est actuellement situé au point L1 de Lagrange, qui est un point particulier du système Soleil-Terre, a mis en évidence et a permis d'observer des éjections qui sont quasi permanentes de matière dans le milieu interplanétaire, qu'on appelle éjection de masse coronale, qui généralement font suite à des éruptions ou à des instabilités des filaments solaires. Vous voyez ici les étoiles du champ, qui glissent sur le fond de ciel pendant l'observation. Et bien ça, c'est un coronographe qui permet d'observer ce genre de phénomène. Les structures, les éjections que vous observez à très grande distance du Soleil, le Soleil c'est en fait le petit rond blanc que vous avez là, sont des structures qui sont 100 milliards de fois moins lumineuses que le disque du Soleil lui-même. Donc on ne peut atteindre ce genre de sensibilité qu'avec les instruments qui sont envoyés dans l'espace. En 1999, nos collègues américains ont mis en service un instrument extraordinaire qui, pour la première fois, a permis de visualiser l'existence à la surface du Soleil de grandes boucles. Ce sont en fait la signature des champs magnétiques. Ces grandes boucles confinent le plasma et donc la densité du plasma étant supérieur à l'intérieur de la densité des boucles, eh bien vous voyez apparaître ces boucles, notamment très bien sur le fond de ciel. Ici, vous avez une animation de l'évolution de ces boucles en fonction du temps, lors notamment d'une éruption du Soleil. Il y a seulement 3 ans de ça, la NASA a mis en route un instrument qui, cette fois-ci, a voulu être complémentaire de la façon dont SOHO observait les éjections de masse coronale en permettant d'avoir ce qu'on appelle une vision stéréoscopique. C'est la raison pour laquelle cet instrument s'appelle stéréo. Il est composé en fait de deux sondes, l'une qui va un petit peu plus vite que la Terre et l'autre qui va un tout petit peu plus lentement, de telle sorte que eh bien, ces deux sondes finissent par avoir un angle entre les deux qui est assez important, de façon à avoir une vision stéréoscopique des émissions de gaz coronales qui sont éjectées dans toutes les directions de l'espace et notamment vers la Terre, avec laquelle ces éjections peuvent interagir. C'est, par exemple, cette vue d'artiste que vous avez à droite représente une éjection de masse coronale qui donc, est éjectée par le Soleil, qui se propage dans le milieu interplanétaire, rencontre le bouclier magnétique de la Terre, que l'on appelle la magnétosphère, et donc interagit avec ce bouclier magnétique et aboutit à la formation des aurores polaires qui se produisent à la fois autour du pôle nord et autour du pôle sud. La même année, les Japonais ont mis en service un instrument qui était un relativement gros télescope, puisqu'un télescope de 50 cm dans le visible, ça donne des images de 0 seconde 3 sur le ciel. Eh bien, cet instrument est dédié à la haute résolution spatiale sur le Soleil. Il a donné de grands résultats, notamment sur le magnétisme du Soleil. Ici, vous avez une éruption, mais surtout sur le magnétisme du Soleil à haute résolution. Donc, pour la première fois, on a pu observer l'évolution extrêmement complexe de la formation des champs magnétiques, de la façon dont les champs se dissolvent, naissent, se réunissent entre eux, s'annihilent par reconnexion magnétique. Ce sont ces thématiques-là qui sont actuellement traitées par les chercheurs dans les laboratoires. Eh bien, nous arrivons bientôt au terme de cet exposé et nous allons donc refaire un petit trajet de 400 ans en arrière pour revenir à Jean Picard. Jean Picard, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un abbé qui donc était membre de l'Académie des sciences et qui, le premier, a introduit à l'Observatoire de Paris la mesure du diamètre du Soleil. Eh bien, cette année, en 2009, le Centre national d'études spatiales, le CNES, va lancer au mois de novembre prochain un microsatellite en hommage donc, à Jean Picard, initiateur des mesures du diamètre du Soleil, satellite donc que l'on a baptisé Picard et dont l'objectif est de mesurer la luminosité du Soleil et le rayon du Soleil avec une précision absolument inégalée dans la montée du cycle 24, puisque nous sommes actuellement en période de minimum d'activité du Soleil et que l'on s'attend au cours des 4 années qui viennent, entre 2009 et 2013, à une intensification de l'activité du Soleil. Donc Picard est un instrument qui est un microsat donc, du CNES qui porte 3 instruments. Deux instruments qui sont particulièrement impliqués dans ce qu'on appelle la métrologie de la constante solaire, c'est-à-dire la détermination de la luminosité du Soleil avec une grande précision. Et l'autre est un télescope qui est à cet endroit-là, dont le but est d'observer les variations, en même temps donc, que la variation, ce qu'on appelle de l'irradiance, observer les variations du rayon solaire avec une précision qui est inégalée et que l'on ne peut absolument pas faire au sol. Si on lance ce satellite dans l'espace, c'est effectivement parce que les mesures qui ont été faites au sol depuis en fait, Picard jusqu'aux mesures récentes du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, ce sont des mesures qui n'ont jamais été totalement concluantes. Donc Picard est en relation également avec l'influence du Soleil sur le climat. Donc c'est un sujet aujourd'hui évidemment qui préoccupe nos concitoyens. Vous avez ici en particulier un petit graphique qui représente entre 1600 et l'an 2000, donc sur 4 siècles, la reconstruction de la température moyenne à la surface de la Terre, reconstruite à partir de ce que l'on sait sur l'irradiance solaire. C'est la courbe qui est représentée en noir. Et on a également, par différents moyens, des observations de la température de la surface. On constate qu'il existe un accord raisonnable entre les températures qui sont mesurées à la surface de la Terre et la reconstruction que l'on peut faire de cette température à partir des variations d'irradiance du Soleil. L'accord est relativement bon, y compris sur cette période du minimum de Maunder, y compris sur cette période du minimum de Dalton, jusqu'à environ 1980. Après, on assiste à un écart considérable qui se creuse entre 1980 et actuellement. Certainement, cet écart n'est pas sans relation avec une augmentation exponentielle du dioxyde de carbone que l'on observe dans l'atmosphère de la Terre depuis une trentaine d'années. Donc c'est un des objectifs de l'instrument Picard que d'affiner cette partie de la courbe, c'est-à-dire comment varie effectivement la luminosité du Soleil, comment varie le rayon Soleil, de façon à être capable, avec une bonne certitude, de pouvoir discerner parmi les effets climatiques que l'on constate à la surface de la Terre, ce qui est dû vraiment au Soleil. Et à cette question, on ne sait pas encore y répondre avec une grande précision aujourd'hui, de ce qui est dû aux activités anthropiques à la surface de la Terre. Et donc c'est sur ce sujet particulièrement d'actualité que je terminerai mon exposé. Je vous remercie.
Donc déjà dans l'Antiquité, les humains qui regardaient déjà le ciel, donc il y avait en particulier quelques astronomes, philosophes, mathématiciens, avaient bien remarqué qu'il y avait une concentration d'étoiles dans le ciel à certains endroits. Et donc il y avait quelques explications, plus ou moins fantaisistes. Bon, j'en citerai une qui est le lait des rats, à qui on avait confié, enfin Zeus avait confié donc Héraclès, et il a tété tellement énergiquement que le lait est parti dans le ciel. Jolie explication. Et donc de là vient le nom galaxie. Donc Anaxagore, quand même au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Voie lactée est l'effet de la lumière des astres qui ne sont pas offusqués par le soleil, c'est-à-dire qu'en fait ils sont dans l'ombre de la Terre. Et on en voit plus par conséquent. Donc il y avait déjà une idée que c'était beaucoup d'objets. Et peu de temps après, 70 ans plus tard, Démocrite, qui lui alors fait vraiment l'hypothèse que c'est un phénomène stellaire et que la Voie lactée n'est rien d'autre qu'une innombrable quantité d'étoiles. Donc c'est assez remarquable que dès cette époque-là, il y avait eu cette hypothèse qui ne pourra être confirmée donc que par la lunette de Galilée. Aristote, par contre, n'était pas du tout d'accord avec ça et pensait que vu que c'était irrégulier, c'était plutôt, enfin, ça appartenait forcément au monde atmosphérique ou en tout cas sublunaire et que ça ne pouvait pas être sur la sphère des fixes puisque c'était irrégulier. Donc Galilée et sa lunette, pour la première fois, montrent que ce sont bien des étoiles et qu'il y en a énormément et qu'elles sont disséminées en petits tas. Donc c'est bien irrégulier, mais ce sont bien des étoiles. Et à peu près à la même époque, donc Fontenelle imagine même qu'il peut y avoir d'autres univers du même genre avec des oiseaux qui pourraient passer aisément de l'un à l'autre, ce qui est quand même extrêmement joli, les pigeons qui porteraient des lettres d'un univers à celui d'à côté. Donc voilà ce qu'on voit, si on lève la tête ailleurs qu'à Paris, ou à Paris vraiment exceptionnellement, une Voie lactée, en effet, effectivement très irrégulière, qui est fort belle par les nuits d'été en particulier. Et donc les questions que l'humanité se pose depuis fort longtemps, c'est bon d'une part ce que c'était, mais d'autre part la forme, la dimension, où est-ce qu'on est dans ce système, depuis quand et comment il s'est formé et comment il a évolué. Et puis toutes ces étoiles, est-ce qu'elles sont comme le Soleil, est-ce qu'elles sont différentes, plus grosses, plus petites, plus froides, plus chaudes. Et donc beaucoup de spéculations autour des siècles. Donc au XVIIIe siècle, Thomas Wright commence à faire des beaux dessins. Et donc l'idée, c'est qu'on serait dans une coquille de sphère, donc pas au centre de la sphère, hein, l'héliocentrisme avait échappé là. Et donc on voit beaucoup d'étoiles parce qu'on regarde par la tranche. Hein, donc la Voie lactée serait une coquille, le Soleil dans l'épaisseur de la coquille, et donc on voit beaucoup plus d'étoiles à cet endroit-là parce qu'on est dans l'épaisseur de la coquille. Kant, juste quelques années suivantes, après, en suivant les idées de Wright, pense qu'on est en fait dans un disque, et non pas dans une sphère, mais vu de l'intérieur. Mais que le Soleil n'a pas non plus une place particulière, et que c'est probablement Sirius qui est au centre, avec moult explications pour expliquer pourquoi c'est Sirius. Alors la taille de la galaxie, ça c'est évidemment un autre problème qui ne s'est pas résolu il y a si longtemps en fait. Et donc Lambert, indépendamment des deux précédents, pense que c'est un système oblong, plat, très grand, 150 000 fois la distance de Sirius, ce qui ferait quand même au bas mot 400 kg par sec, ce qui est quand même vraiment beaucoup, que le Soleil est pas dans... que le centre plutôt du...
du système est aussi ailleurs qu'au Soleil, que le Soleil est dans un sous-système qui est proche d'Orion, et que l'univers, comme pour Fontenelle, contient un très grand nombre de voies lactées. Enfin, sauf que là, c'est peut-être dans le même univers, je ne sais pas. Et enfin, 1785, Herschel, William Herschel et sa sœur Caroline ont fait enfin une démarche observationnelle et d'analyse rigoureuse, et donc des comptages d'étoiles dans un certain nombre de directions, hein, les jauges d'Herschel. Et il a été démontré depuis que les comptages étaient remarquablement bien faits, jusqu'à une magnitude très régulière de 15.4, si je me souviens bien. Et donc la conclusion était basée sur un certain nombre d'hypothèses, que les étoiles étaient réparties uniformément, que l'espace interstellaire est transparent, qu'on observe avec le télescope d'Herschel, qui était effectivement un très gros télescope, largement jusqu'aux confins du système, donc il voyait vraiment, qui voyait au pluriel, toutes les étoiles qu'il y avait dans le système en question, et que toutes les étoiles étaient, sinon identiques, au moins avec la même luminosité. Alors évidemment, avec autant d'hypothèses fausses, le résultat était faux, mais à cette époque-là, c'était pas fait, il n'avait pas tellement le moyen de les tester, et donc il n'y a pas de miracle, on retrouve en fait le dessin de la Voie lactée tel qu'on le voit, en levant la tête, disons, avec un soleil qui n'est pas très loin du centre. Donc ce qui manque, très violemment ici, c'est une estimation des distances, et des distances correctes, et en fait... Herschel, au fur et à mesure de sa longue vie, a fait multiples publications où il commençait à avoir beaucoup de doutes sur le fait qu'il observe les étoiles jusqu'aux confins du système, et aussi beaucoup de doutes sur le fait que les étoiles étaient toutes identiques. Bon, l'extinction interstellaire, c'est plutôt venu après. Donc, si on regarde un peu au cours des temps les distances attribuées aux étoiles, y en a un certain nombre, comme Aristarque, qui avait eu l'idée que cette distance pouvait être immense. Ça veut dire qu'effectivement, c'était pas la Terre qui était au centre du monde, mais le Soleil. Et apparemment, même à cette époque, quand on opposait à Aristarque le fait que si c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas le contraire, on devrait voir des parallaxes trigonométriques. Et l'idée, la réponse, c'était que les étoiles étaient trop loin pour qu'on puisse mesurer ces déplacements sur le ciel, ce qui était parfaitement correct. Mais il faudra quand même attendre 1838-39 pour avoir la réponse. Donc Copernic, logiquement, ayant mis le Soleil au centre du système solaire, répondait que la distance des étoiles n'était pas mesurable. Et très bizarrement, après, Tycho Brahe ou Kepler sont revenus là-dessus, malgré les lois de Kepler. Donc c'est le raisonnement scientifique qui est vraiment quelque chose qui avance par étapes. Bon, ensuite, il y a eu donc des mesures de parallaxe trigonométrique, vraiment avec le déplacement des étoiles sur le ciel, et une mesure d'une première distance, donc celle de Sirius, par Newton, qui, reprenant une idée de Grégory, a mis des filtres pour atténuer la lumière du Soleil et comparer la luminosité du Soleil à celle de Sirius. Et obtenu une valeur, bon, qui était certes fausse, mais finalement pas si loin. Enfin, l'ordre de grandeur était tout à fait correct. Et donc ça, c'est les trois premières mesures de parallaxe trigonométrique. Et on voit que, bon, bah, ils étaient pas trop mauvaise. Donc le grand débat, une fois qu'on a des parallaxes trigonométriques, on essaye d'en mesurer un peu plus et on essaye de reconstituer, enfin il y a beaucoup d'autres études, mais donc sur celles qui nous intéressent aujourd'hui, comment est faite la galaxie à partir de ce qu'on obtient comme mesure et ce qu'on peut en déduire. Et donc vers les années 1920, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, on ne savait pas ni où était le Soleil dans la galaxie, ni la galaxie si elle avait... 10, 20 ou 200 kiloparsecs de diamètre, si l'épaisseur était de 3 kiloparsecs ou de 300 parsecs. Enfin, tout ça était vraiment très incertain. Il y avait déjà des hypothèses de bras spiraux. Il y avait une idée que le centre de la galaxie était à 20 parsecs au-dessus du plan. Ce qui est amusant, c'est que c'est à peu près la hauteur du Soleil, en fait, au-dessus du plan. Il y a eu un certain nombre de bévues des observateurs qui ont induit les gens en erreur, parce que bon, les galaxies extérieures, on avait remarqué donc, qu'il y en avait qui avaient des bras spiraux, donc la nôtre pouvait aussi avoir ça, mais Van Manen, en 1916, mesure des mouvements propres et les trouve à une quantité vraiment très mesurable dans une galaxie extérieure. Alors que si on fait le calcul, on voit que si la galaxie n'est effectivement pas dans la nôtre, à l'intérieur de la nôtre, ça entraîne une vitesse de rotation plus grande que la vitesse de la lumière. Donc il y avait réellement un problème quelque part. Et donc on voit que les distances des galaxies extérieures, enfin Andromède ici, varient de 6 parsecs à 300 kiloparsecs, ce qui fait quand même pas mal une barre d'erreur assez conséquente. Donc, révolution galactocentrique, ce n'est pas le Soleil qui est proche du Soleil, le Soleil est finalement loin du centre. Et Chapelet pense, c'est très raisonnable comme hypothèse, que le centre, c'est le centre du système des amas globulaires. Et que la galaxie est grande et contient les nébuleuses extérieures du genre d'Andromède. Alors que Curtis, lui, pense le contraire, pense que les nébuleuses sont à l'extérieur. Et Hubble, qui mesure donc des distances de céphéides, donc à la suite aussi des mesures d'Henrietta Leavitt dans le nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan, Hubble les mesure dans M31 et obtient pour M31 non pas 6 parsecs, mais 300 kiloparsecs. Et il écrit à Chapelet, qui est complètement, atterré par ce résultat, qui montre que tout ce qu'il avait échafaudé comme raisonnement au préalable, en fait, est mis en doute par ce résultat de Hubble, qu'il trouve visiblement très convaincant. Donc, notre galaxie, quelle forme, quelle taille? On voit ici très schématiquement le résultat. Bon, de nos jours, c'est environ, les valeurs qui sont acceptées maintenant, sont environ 30 kiloparsecs pour le disque visible et peut-être 100 kiloparsecs pour le halo autour de la galaxie. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu mesurer ça plus tôt? Eh bien, c'est que les ordres de grandeur sont assez terribles. 30 minutes, on sait tous que c'est le diamètre de la Lune. Un millième de seconde d'arc, et il faut se souvenir que l'étoile la plus proche a une parallaxe plus petite qu'une seconde d'arc. Un millième de seconde d'arc, qui est donc à peu près la précision qu'a obtenue le satellite Hipparchos, c'est un personnage sur la Lune. Et une mesure de parallaxe, ce n'est pas une mesure statique, ce n'est pas une résolution, comme dans l'exposé de Yann Clenet. C'est comme si on mesure le trajet d'une mouche, disons, du pied à la tête du personnage sur la mouche, sur la Lune, pendant une année. Hein, donc, une puce, mettons une mouche, qui monte des pieds jusqu'à la tête et qui redescend pendant une année. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mesurer. Et le genre de précision qui est visé par Gaïa, c'est quelques microsecondes de degré. Et une microseconde de degré, c'est mesurer un puceron sur une fleur sur Mars, ou c'est l'épaisseur d'un cheveu à 10 000 km. Donc on ne conçoit pas vraiment très bien comment c'est. Alors si on regarde maintenant dans le ciel, ça c'est évidemment extrêmement exagéré. Le mouvement propre est ce qui déplace les étoiles à peu près rectilignement sur le ciel. Et les petites broderies, c'est dû donc au mouvement de la Terre autour du Soleil. Et la mesure de la parallaxe, c'est le diamètre de ces petites broderies. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que tout bouge. La Terre tourne bien sûr autour du Soleil. Le Soleil lui-même tourne autour du centre galactique, sur une orbite qui est courbe. L'étoile elle-même, elle a un mouvement propre, mais elle a aussi une vitesse radiale. Les étoiles de fond, elles bougent aussi, hein, on les prend comme référence, mais en fait, elles sont à une distance finie. Les étoiles peuvent être multiples et donc tourner l'une autour de l'autre, autour d'un centre de gravité commun. Une des composantes ou les deux peuvent être variables. La Terre et le satellite tournent sur eux-mêmes. Et puis, il y a du microlensing et l'espace-temps est courbe. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente la précision avec laquelle on mesure les parallaxes trigonométriques, enfin plus généralement les angles sur le ciel, il faut tenir compte de plus en plus de tous les effets qui existent là. Et donc on voit le résultat sur les catalogues de parallaxes trigonométriques qui ont été publiés au cours des années, la difficulté des mesures, donc l'amélioration des instruments au sol va produire un catalogue, donc le premier catalogue général de parallaxes trigonométriques en 1924 avec 1870 étoiles, qui sera donc amélioré peu à peu avec des instruments au sol de plus en plus précis, mais qui va buter sur le fait que eh bien, au sol, il y a une atmosphère et que c'est très ennuyeux pour faire des images, mais c'est aussi très ennuyeux pour faire des mesures d'angle précis. Et donc, le grand progrès, le grand saut, aussi bien en quantité qu'en qualité, ça va être donc l'astrométrie spatiale et la publication du catalogue Hipparcos en 1997. Donc, 118 000 étoiles avec des précisions sur les parallaxes qui atteignent mieux que le millième de seconde d'arc. Et donc, vers 2020, on attend celui de Gaïa avec 1 milliard d'étoiles. Alors, à quoi ressemble notre galaxie maintenant, pour revenir à ce sujet ? Bon, on a bien vu que c'était une spirale, mais encore. Combien de bras ? Où est le Soleil là-dedans ? Le disque, il n'y en a qu'un, avec des caractéristiques différentes, ou il y en a deux ? Il y a un halo, il va jusqu'où ? Il est composé de quoi ? Est-ce qu'il y a un halo de matière noire tout autour ? Le bulbe, c'est vieux, c'est jeune, c'est un mélange d'étoiles ? Est-ce qu'il y a un anneau ? Est-ce qu'il y a une ou deux barres ? Et le Soleil ? Où est-ce qu'il est par rapport au centre de la galaxie ? À quelle distance il est au-dessus ou en dessous du plan galactique ? Donc il y a beaucoup de questions dont certaines ont reçu des réponses à peu près fiables, disons maintenant, et d'autres sont encore en étude actuellement. Donc voilà, très exagéré, les mouvements qu'on peut observer dans le ciel, dans le Scorpion. Et donc ça, c'est un amas d'étoiles. Donc on voit effectivement qu'il y a un certain nombre d'étoiles qui vont toutes dans le même sens. Hein, c'est un amas. Et puis il y a d'autres étoiles autour qui vont un peu dans tous les sens. Et ça, c'est les mouvements des étoiles autour du mouvement de la rotation galactique. Donc en plus, parce qu'il y a un mouvement donc, général de rotation de la galaxie, et en plus de ce mouvement régulier, il y a des mouvements qu'on appelle les mouvements propres de toutes les étoiles et du Soleil aussi. Donc, en une diapo, ce qui est évidemment très schématique, ce qu'on a appris au XXe siècle sur la galaxie. Donc, première chose, de distinguer les différentes populations stellaires. Donc, c'est BAD qui a le premier introduit ça en 1944, qui avait des étoiles bleues et des étoiles rouges qui n'avaient pas du tout les mêmes propriétés dans la galaxie, qui n'étaient pas du tout distribuées de la même manière, de manière spatiale, dans la galaxie. Donc les progrès de la radioastronomie, là aussi, ont fait une révolution, puisqu'avec l'observation de l'hydrogène, l'arrêt de l'hydrogène à 21 cm, on a détecté les bras de la galaxie, détecté qu'elle tournait, donc déterminé la courbe de rotation de la galaxie, et constaté aux surprises que quand on s'éloigne vers l'extérieur de la galaxie, en fait, la courbe de rotation ne retombe pas suffisamment. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de masse que ce qu'on observe, disons, aussi bien en optique qu'en radio. L'interaction avec l'extérieur, donc ça, c'est une grosse découverte des 20 dernières années, même 15 dernières années, disons, c'est que, visiblement, il y a un très grand rôle dans la formation des galaxies, des accrétions entre galaxies, et qu'en particulier, il y en a une, Sagittarius, qui est en train de passer à travers la nôtre. Hein, c'est quelque chose qui a été découvert par Ibata et collègues en 1994. Et donc, depuis, on a trouvé beaucoup d'autres accrétions de galaxies et montré que notre galaxie, comme apparemment un certain nombre d'autres à l'extérieur qu'on observe aussi maintenant, sont formées par accrétion de petites galaxies. Et au centre, il n'y a pas le Soleil, mais il y a un trou noir, comme on a vu dans le premier exposé. Alors, Hipparcos, lancé donc en 89, enfin des parallaxes en quantité, et des parallaxes de très bonne qualité. Donc 118 000 étoiles ont été sélectionnées sur programme scientifique, bien sûr, mais aussi pour respecter les contraintes techniques du mode d'observation du satellite qui balayait le ciel en permanence. Et donc il fallait, évidemment, pour pouvoir faire des mesures, avoir des étoiles un peu partout sur le ciel. Donc vous avez en particulier ici un des acteurs qui est Jean Kovalevski, qui a beaucoup participé au début du satellite et qui a été le responsable d'un des consortiums d'analyse des données. Bon, pendant que moi, j'étais responsable de celui qui construisait le catalogue d'entrée, donc le programme d'observation du satellite. Pour la première fois, on a des parallaxes absolus avec Hipparcos et non pas des parallaxes relatives, parce qu'au sol, c'est uniquement des parallaxes relatives puisqu'on mesure dans des petits champs. Et les parallaxes qui sont mesurés avec Hubble, par exemple, sont aussi mesurés dans des petits champs, donc ce sont des parallaxes relatives. Et on obtient, pour un très grand nombre d'étoiles, 21 000 étoiles, alors qu'avant, au sol, il y en avait une centaine, des erreurs relatives sur la parallaxe meilleures que 10%. Donc, c'est sûr que ce genre d'information va changer notre conception du voisinage solaire, hein, puisque Hipparcos, c'était un télescope de 29 cm de diamètre, donc c'était vraiment tout petit. Donc, la magnitude limite était un peu plus que 12. Et ça a permis donc d'obtenir des distances, des luminosités, des âges, des mouvements, une analyse des systèmes multiples et de la variabilité, donc de 118 000 étoiles proches du Soleil. Et le grand pas en avant qu'a fait faire ce satellite, c'est de montrer que l'astrométrie, c'est un outil essentiel à l'astrophysique. Il n'y a qu'à regarder le nombre de publications qui sortent des données de ce satellite, c'est plus de 6 000. Et il y en a encore en ce moment, je ne sais pas, à peu près 200 par an. Donc Hipparcos a montré un certain nombre de choses, que beaucoup de distances, même très proches du Soleil, étaient nettement sous-estimées. Même pour les étoiles dont on pensait qu'elles étaient à moins de 25 parsecs, en fait, elles étaient beaucoup plus loin. Ce qui veut dire, par conséquent, que la densité locale en étoiles était surestimée, que la distance du grand nuage de Magellan était encore très mal connue, alors que la totalité de l'échelle des distances est basée dessus. A montré que ça, c'est le premier diagramme à chair donc d'Hipparcos, où on voit que, d'une part, la séquence principale est vraiment très bien délimitée et que ce qu'on appelle le clump des géantes, donc cet amas d'étoiles dans le diagramme à chair, est vraiment très marqué, même dans le voisinage solaire pour des étoiles de champ, alors qu'avant on ne le connaissait que pour des étoiles d'amas. Bon, il a aussi montré que les distances justement de ces amas globulaires étaient sous-évaluées et que les âges par conséquent étaient surévalués, et ce qui a permis de lever pour la première fois la contradiction entre l'âge de l'univers et l'âge des objets les plus vieux de notre galaxie. Ce qui était quand même un élément important. Et il a aussi permis, enfin c'est vraiment une sélection très brève, de regarder la structure à trois dimensions et les mouvements des amas d'étoiles les plus proches et des associations OB, qui sont donc les zones de formation d'étoiles autour du Soleil. Alors, d'Hipparcos à Gaïa, deux missions de l'Agence spatiale européenne. Hein, c'est vraiment une spécialité européenne, l'astrométrie spatiale. Pour l'instant, en tout cas. Donc, on voit les échelles de temps. Premières idées pour Hipparcos, 1966, lancé 89, publié 97. Premières idées de Gaïa, 93, accepté en 2000. Lancement prévu 2012, cette fois-ci à L2, donc à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et donc, le but, c'est d'observer 1 milliard d'objets, étoiles, objets du système solaire et galaxies, avec des précisions attendues qui vont donc de 6 à 200 microsecondes de degré et observer des étoiles jusqu'à la magnitude 20. Donc on voit ici les différences, hein, télescope plus grand, donc magnitude atteinte plus faible, beaucoup plus d'objets, toujours le même principe, donc deux champs du ciel qui sont rassemblés dans le même plan focal et en même temps de la photométrie multicouleur pour Gaïa, parce qu'on a souffert sur Hipparcos de ne pas avoir la caractérisation physique des étoiles observées en astrométrie. Donc là, sur le même instrument, sur le même télescope, on a trois chaînes de détection pour l'astrométrie qui vont permettre d'avoir 100 millions d'étoiles dont les parallaxes vont être mesurées à mieux que 10%, de la photométrie multicolore, des vitesses radiales, et on pourra aussi observer beaucoup d'autres objets que des étoiles, en particulier beaucoup d'objets du système solaire qui vont aussi là faire une grosse différence sur les déterminations d'orbite et de masse. Donc si on prend un exemple pour voir un peu les différences, donc ici c'est une tranche de camembert qu'on regarde vers les Iades, et on voit ici les mesures au sol, il y a chaque point mesuré au sol avec une parallaxe trigonométrique et les barres d'erreur. Ces traits-là sont des barres d'erreur. Donc on voit bien qu'il y a un amas dans cette direction, mais pour dire que les Iades sont là ou là ou là, on ne sait pas. Donc avec Hipparcos, plus d'étoiles mesurées et des barres d'erreur beaucoup plus petites. Et en effet, on a la structure à trois dimensions de l'amas des Iades. Avec Gaïa, toutes les étoiles mesurées et les barres d'erreur, bah, vous ne les voyez plus. Et l'amas, on va avoir donc là vraiment six dimensions et un luxe de détails sur ce que c'est que cet amas. Donc Gaïa, un peu d'informations sur Gaïa. Donc ça, je crois que je vais passer parce que j'ai déjà à peu près tout dit. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc la coiffe du Soyouz avec l'instrument tout replié et les panneaux solaires après qui se déplient. Alors la science avec Gaïa, ça ne peut être que super bref en les quelques minutes qui me restent. Donc ceci est une simulation d'étoiles OB très chaudes, donc dans la galaxie, avec des distances photométriques, on voit à peu près des bras, avec la précision des distances Gaïa, voilà ce qu'on espère obtenir. Bon, alors évidemment, ils ne seront peut-être pas comme ça, hein, mais c'est ce qu'on espère. Les collisions, donc j'ai dit tout à l'heure à quel point c'était important pour comprendre la formation des galaxies. Donc ça, c'est une simulation donc dans l'espace spatial, mais dans l'espace des vitesses, on a aussi bien sûr des traces des collisions, puisqu'on retrouve des vitesses qui sont cohérentes avec un satellite qui serait rentré donc en collision avec une galaxie. Les planètes extrasolaires, ça c'est un autre des aspects. Il va y avoir une détection tout à fait systématique puisqu'il n'y a pas de choix. Hein. Toutes les étoiles qui seront dans le programme seront observées. Donc en gros, toutes les étoiles, on pourra tester la présence de Jupiter chaud jusqu'à environ 200-250 parsecs. On voit ici le mouvement du Soleil vu de 100 parsecs et ici la barre d'erreur Gaïa. Donc vous voyez que c'est parfaitement mesurable. S'il y a des planètes extrasolaires plus petites autour des étoiles plus proches, on les détectera de la même manière. Et il y aura aussi des détections photométriques, puisque la précision de la photométrie de Gaïa est aussi de l'ordre de millièmes de magnitude. Donc la détection astrométrique des planètes, donc tout à l'heure vous avez vu le trajet sur le ciel d'une étoile avec son mouvement propre et la parallaxe. Vous voyez ici les petites perturbations. Eh bien ça, c'est l'effet d'une exoplanète sur le trajet apparent d'une étoile sur le ciel quand il y a une exoplanète autour. Donc c'est des petites perturbations du mouvement qu'il faut analyser. Alors voilà le calendrier du projet. Donc première proposition vers 93. Enfin en 93, il y a eu des premières idées encore auparavant sur ce qu'on pourrait faire avec de l'astrométrie avec une telle précision. La mission a été sélectionnée en 2000, donc étude de réévaluation, parce qu'on est passé d'Ariane à Soyouz, qui a fait diminuer la taille des télescopes, des miroirs. Une définition pour avoir vraiment un schéma relativement précis de l'instrument. Et donc maintenant, on est dans la phase de construction, avec un lancement annoncé pour l'instant pour le printemps 2012. Et ben, on aurait mieux aimé que le Soleil soit calme pendant ce temps-là. Donc, parce que bon, quand le Soleil est en phase active, il envoie de méchantes choses qui abîment les CCD et qui, quand on veut faire du pointage très précis, donc de position astrométrique, toute perturbation par un rayon cosmique est une catastrophe. Donc plus il y en a et mieux c'est. Mais bon, ben, on fera avec ce qu'on aura. Et donc voilà, le traitement des données qui n'était déjà pas simple pour Hipparcos, est vraiment très compliqué pour Gaïa. Et il y a un gros consortium européen qui donc s'occupe de traiter de préparer le traitement de ces données en les simulant à l'avance, en établissant les logiciels à l'avance. Et d'autre part, il y a évidemment aussi une grosse préparation pour exploiter scientifiquement ces données, parce qu'on ne va pas travailler pour comprendre donc la galaxie, pour comprendre les étoiles, de la même manière avec 1 milliard d'objets qu'on travaillait avec 100 000 étoiles. Donc le premier but de Gaïa, c'est de comprendre la formation et l'évolution de notre galaxie, en alliant donc tous les aspects cinématiques, dynamiques et chimiques, comprendre la dynamique de notre galaxie et du groupe local, et donc entre autres la distribution de la matière sombre. Bien sûr, pour les étoiles individuelles, on va avoir des précisions qu'on n'a absolument jamais eues. Donc pour les étoiles jusque magnitude 15 environ, on va avoir une information d'un luxe de détails qu'on ne connaît pas. Donc c'est sûr qu'on va avoir des découvertes aussi bien pour les étoiles, puisqu'on les observe en mode survey, enfin relevé sans choix à l'avance. Donc on va avoir des phases d'évolution qu'on ne connaît pas sûrement, et des objets rares pour lesquels on n'a pas de mesure de distance actuellement. Et dans le système solaire, on va avoir aussi donc énormément d'observations d'astéroïdes, environ 400 000 astéroïdes, pour lesquels on va avoir une meilleure dynamique et aussi une étude physique avec la photométrie. Et donc ce qu'il faut préparer maintenant, c'est les observations au sol, donc en parallèle à la préparation de l'analyse même des données Gaïa. de préparer les observations au sol complémentaire pour pouvoir faire toutes ces études de manière encore plus détaillée, et donc en particulier des observations spectroscopiques très détaillées pour les étoiles, pour pouvoir étudier plus en détail l'évolution galactique, aussi bien d'un point de vue chimique, donc de nombreux éléments, et de la cinématique qu'on aura avec Gaïa. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est les mesures relativistes de la déviation de la lumière. Donc il y aura un certain nombre d'applications. Vous imaginez qu'à ces précisions-là, il faut tenir compte de beaucoup d'effets relativistes. Et donc, si on en tient compte, on voit aussi les déviations par rapport aux effets relativistes qu'on attendait. Donc on va investiguer toute la partie de la galaxie qui est du côté du Soleil, et un certain nombre d'étoiles brillantes au-delà du bulbe, donc le halo au-delà du bulbe, et les étoiles dans les nuages de Magellan, et dans les étoiles, on pourra aussi mesurer des mouvements propres dans, par exemple, Andromède. Voilà, merci beaucoup.
Vous venez d'écouter les interventions de Thomas Widmann, Véronique Dehan, Jean-Marie Malherbe et Catherine Turon sur l'évolution des différentes découvertes de Galilée, de leur conception à nos jours, dans le cadre des conférences mensuelles organisées par le Bureau des Longitudes. Restez avec nous pour la première partie de cette conférence. Vous pourrez télécharger les interventions de Yann Clenet et Jean-Eudes Darlot sur le Very Large Telescope et l'Extremely Large Telescope, ainsi que l'observation des satellites galiléens. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.